VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 1er mars 2019, en direct de Washington, Eric Manilakiza et Anne Albertson. D'abord, le sommaire.
Macky Sall, élu dès le premier tour de la présidentielle au Sénégal. L'opposition rejette en bloc les résultats provisoires.
Effectif pléthorique dans les salles de classe au Togo.
Nous avons un problème d'effectif. La demande est très forte, mais malheureusement, les infrastructures ne sont pas suffisantes pour les accueillir. Dans cette situation, nous créons un système de double flux.
C'est un peu difficile. Des fois, je rentre à 19h, des fois à 19h30. Et puis, apprendre le cours le soir, là, c'est un peu possible, quoi.
En Somalie, l'explosion d'une voiture piégée fait au moins 5 morts à Mogadiscio.
En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou pourrait être inculpé pour corruption, fraude et abus de confiance.
Et dans 10 minutes, la page des sports et la minute écho. Pour l'instant, le journal.
Au Sénégal, le président sortant Macky Sall a triomphé dès le premier tour de l'élection présidentielle. Il a largement devancé ses quatre adversaires de l'opposition. Les candidats malheureux ont rejeté en bloc les résultats provisoires annoncés hier, mais ont décidé de ne pas introduire de recours. Le point avec Abdelhamadj Dia.
Macky Sall, 56 ans, a remporté plus de 2 500 000 voix, soit 58,27% des suffrages exprimés, selon Demba Kandji, le président de la Commission nationale de recensement des votes. Il devance l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, crédité de 20,50%, le député Ousmane Sonko, 15,67%. Le président d'université privée Issa Sall obtient 4,07% et l'ancien ministre Madi Kenyan 1,48%. La participation très élevée a été de 66,24%. Si ces résultats sont confirmés par le Conseil constitutionnel, Macky Sall, au pouvoir depuis 2012, doit entamer son nouveau mandat de 5 ans le 3 avril. L'annonce des résultats hier a provoqué des scènes de liesse au siège de campagne du président sortant où Aminata Touré, sa directrice de campagne, s'est adressé à des militants surchauffés d'enthousiasme. « Nous rejetons fermement et sans aucune réserve ce résultat », ont indiqué les adversaires du président sortant. Idrissa Seck, au nom des quatre candidats de l'opposition, a déclaré qu'ils ne feront aucun recours devant le Conseil constitutionnel.
Au Cameroun, l'avocate Ndoki Michel a été arrêtée mardi et se trouve à Yaoundé entre les mains des autorités, indique le barreau des avocats du Cameroun. Le bâtonnier, maître Charles Tchakouté-Patier, estime que son arrestation porte atteinte à sa dignité et a annoncé avoir désigné 3 avocats pour sa défense. Les griefs reprochés à maître Ndoki ne sont pas précisés. Maître Ndoki est proche de l'opposant écroué Maurice Kamto et fait aussi partie de l'équipe de sa défense.
Une dizaine de journalistes algériens interpellés durant plusieurs heures ce jeudi, ils avaient participé à Alger à un rassemblement contre la censure à la veille de nouvelles manifestations annoncées contre la candidature du président Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat.
En Guinée-Bissau, reprise de la grève des enseignants hier, 2 semaines après sa suspension, les enseignants dénoncent le non-respect par le gouvernement d'accords portant sur les salaires et l'amélioration de leurs conditions de vie. Des détails avec John Lyndon.
Selon la coordination syndicale, les enseignants reprochent au gouvernement de n'avoir pas respecté ses promesses de paiement de 3 mois d'arriérés des salaires, d'amélioration de leurs conditions de vie, des publications au journal officiel d'un nouveau plan de carrière et la mise en œuvre d'une nouvelle grille salariale. Ils nous ont menti sur toutes les promesses faites. Nous avons tout simplement cessé de travailler, a déclaré le chef de la coordination des grévistes, Begoma Edouarté Sana. Il a affirmé que le mouvement se poursuivra tant que le gouvernement n'aura pas trouvé de solution. Depuis septembre, les enseignants de Guinée-Bissau ont fait des grèves à répétition pour réclamer le respect d'accords conclus après plusieurs années de revendications. Le mouvement des enseignants, qui avait suspendu leur grève le 15 février, a repris alors que se poursuivait jeudi la campagne pour les élections législatives du 10 mars, initialement prévue en novembre.
Au Soudan, 3 tribunaux différents à Khartoum ont condamné 8 personnes ce jeudi pour leur participation à des manifestations interdites. 4 parmi ces manifestants ont été condamnés à 5 ans de prison, 3 à 3 ans et 1 à 6 mois. Il s'agit des premières peines prononcées depuis l'instauration de tribunaux d'exception en début de semaine par le président Omar El-Béchir.
En Somalie, au moins 5 personnes ont été tuées et 25 blessées dans l'explosion d'une voiture piégée près d'un grand hôtel du centre de Mogadiscio. Bagassi Koura.
Il y a eu une énorme explosion de voitures piégées dans la rue Maka al-Mukarama, a déclaré le policier Mohamed Farah. Elle a détruit beaucoup de magasins et de véhicules. Des témoins ont décrit l'explosion qui a touché une des rues les plus actives de la capitale somalienne. Il y a eu une deuxième explosion dans la même zone quelques minutes plus tard. Les islamistes Shebab ont revendiqué l'attentat, disant que les auteurs ont tenté de tuer des hauts responsables qui résident dans le grand hôtel Maka al-Mukarama. Il y a eu un attentat suicide suivi de tirs dans lesquels les combattants moudjahidines ont visé les commandants et les responsables du gouvernement somalien qui habitent l'hôtel, selon un communiqué de Shebab. Les Shebab, qui ont été chassés de Mogadiscio en 2011, contrôlent encore de vastes territoires dans les campagnes.
Crise libyenne, l'ONU a indiqué ce jeudi qu'un nouvel accord a été conclu entre pouvoirs rivaux sur l'organisation d'élections en Libye. Plusieurs ententes visant à sortir ce pays du chaos sont restées lettres mortes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Israël, en pleine campagne électorale, le procureur général a informé hier le premier ministre Benjamin Netanyahou de son intention de l'inculper. Il veut le faire juger pour corruption, fraude et abus de confiance. Le point avec Raissa Girondin.
Le magistrat Avishai Mandelblit a indiqué que sa décision n'était pas finale et qu'il offrait au Premier ministre la possibilité de s'expliquer devant lui avant de prendre la décision définitive. Il a l'intention d'inculper M. Netanyahou pour corruption, fraude et abus de confiance. Le Premier ministre est soupçonné d'avoir tenté de s'assurer une couverture favorable de la part du site d'information Walla en contrepartie de facilités gouvernementales qui pourraient avoir apporté des centaines de millions de dollars à Bezeq, principal groupe de télécommunications israélien. Si une inculpation se concrétisait, elle ne devrait pas intervenir avant plusieurs mois. Netanyahou ne serait pas non plus tenu légalement de démissionner s'il était inculpé après avoir été reconduit à son poste. 40 jours avant les législatives anticipées du 9 avril, c'est une menace sur le long règne de l'homme appelé Bibi qui, à 69 ans et après bientôt 13 ans de pouvoir, brigue un cinquième mandat. Le Premier ministre a dénoncé une chasse aux sorcières et un plan de ses adversaires.
Raissa Girondin et une commission de l'ONU a affirmé ce jeudi que la réponse d'Israël aux manifestations à Gaza en 2018 peut constituer des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Les enquêteurs ont souligné que des snipers ont visé des civils, dont des enfants.
L'ex-avocat de Donald Trump, Michael Cohen, poursuivra son témoignage à huis clos devant une commission du renseignement du Congrès le 6 mars. Lors de 3 jours d'audition marathon, il a accusé le président américain d'être un escroc aux liens suspects avec Moscou.
Le deuxième sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un s'est achevé hier sans accord à Hanoï au Vietnam. Les deux camps ont assuré vouloir poursuivre les négociations entamées lors du premier sommet historique de juin dernier à Singapour, mais ont aussi livré des versions divergentes de l'échec de ce deuxième rendez-vous. Cette situation ouvre une nouvelle période de fortes incertitudes avec une Corée du Nord qui conserve son arsenal nucléaire et un désaccord profond sur l'avenir des négociations.
Le chef de l'opposition au Venezuela, Juan Guaido, a affirmé hier qu'il retournerait dans son pays au plus tard lundi, malgré les menaces. Il l'a dit à l'issue d'une rencontre avec le président brésilien Jair Bolsonaro à Brasilia. Reconnu comme président par intérim par plus de 50 pays, Juan Guaido avait quitté le Venezuela le 22 février en dépit d'une interdiction de sortie du territoire. Il risque d'être immédiatement arrêté à son retour, comme l'en a averti le président socialiste Nicolas Maduro. En revanche, les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont échoué à s'entendre sur la gestion de la crise au Venezuela. 2 projets de texte, l'un américain a été l'objet d'un rare double veto russo-chinois, l'autre russe a été écarté faute de voix suffisante.
Le secrétaire d'État britannique à l'agriculture, George Eustis, a démissionné ce jeudi. Décision prise après la décision de la première ministre Theresa May de donner aux députés la possibilité de reporter la date du Brexit.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
dans l'actualité économique, nous retrouvons Nanit Sylvani Talani, c'est la Minute Éco.
Le Mali vient de recevoir de la Banque mondiale 52 milliards de francs CFA pour améliorer l'accès à l'électricité à plus de 1 million de personnes. Financial Afrique indique que ces fonds, composés de 30 milliards de francs CFA en prêts et de 17 milliards de francs CFA en dons, permettront de construire environ 3800 km de lignes moyennes et hautes tensions et près de 400 postes de distribution à Kai, Manantali, Kita et Kati. Le président des paysans centrafricains, Pascal Bida Koyakbele, veut s'associer avec le Crédit populaire de Centrafrique pour offrir un microcrédit destiné à aider ses élèves agriculteurs à s'équiper d'outils modernes et performants. Monsieur Koyakbele veut aussi apprendre aux paysans à produire un engrais biologique qu'il a mis au point à partir du compost mélangé à trois plantes qui font office d'insecticides, de fongicides et d'engrais naturels. Ces projets offrent une solution à deux freins de l'agriculture africaine pointée par la BAD, des rendements trop faibles et l'utilisation insuffisante d'intrants. Pour finir, le Mozambique a engagé des poursuites devant un tribunal londonien contre la banque Crédit Suisse. Le Crédit Suisse est l'un des prêteurs à s'être doté de prêts garantis par le gouvernement mozambicain d'une valeur de 2 milliards de dollars qui ont plongé le Mozambique dans une crise de la dette qu'il a toujours du mal à récupérer.
Et sans transition, nous passons directement à la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
En Afrique, le Cameroun ne lâche pas prise pour le mondial FIBA 2019.
Oui, la fédération camerounaise a saisi la fédération internationale de basketball après la qualification de la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde de la discipline. Pour les Camerounais, la large victoire des Ivoiriens face au Nigeria 72 à 46 lors des éliminatoires qui viennent de se dérouler à Abidjan est une mascarade. Les Camerounais sont mécontents, suspectant un arrangement entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, comme l'a dit à VOA Afrique le secrétaire général de la Fédération camerounaise de basketball, Camille Ndjo-Ekiti.
Le Nigeria s'est laissé battre par la Côte d'Ivoire. Le Nigeria s'est réveillé le lendemain pour battre la RCA, pour donner davantage à la sélection de Côte d'Ivoire. Au-delà du match, deux émissaires nigériens étaient passés par le Cameroun presque une semaine avant pour essayer de grappiller quelque chose côté Cameroun afin d'avoir la motivation nécessaire pour battre la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas pu véritablement attirer notre attention sur ce fait-là. Si ils ont eu une oreille attentive côté d'Abidjan, nous comprenons qu'ils ont peut-être dû lever le pied. Pour nous, quelque chose s'est fait et il faut bien que FIBA voit clair. Quand je dis deux émissaires, c'est des personnes qui sont très, très proches de l'équipe du Nigeria et qui les deux étaient à Abidjan dans la délégation du Nigeria.
En face, la Côte d'Ivoire dit ne rien avoir à se reprocher selon le président de la Fédération ivoirienne de basketball.
Nous avons gagné nos matchs sur le terrain. Tout le monde a vu les matchs, ils étaient télévisés. Je ne vois pas en quoi nous ne méritons pas notre qualification. Nos joueurs ont très bien joué, se sont battus. Ils étaient chez eux, ils avaient envie de se qualifier. Donc il n'y a aucune raison que ces joueurs-là ne se battent pas et ne fassent pas en sorte que leur orgueil leur permette de jouer le mieux possible afin de battre une nation comme le Nigeria, de battre le Rwanda et de battre le Mali. Donc je ne vois pas pourquoi on irait crier au loup alors que la Côte d'Ivoire s'est qualifiée normalement sur le terrain. J'insiste, sur le terrain de basket.
Mathieu Agui au micro de Georges Ibrahim Tunkara, notre correspondant à Abidjan. Pour l'heure, la Côte d'Ivoire meilleure troisième de ces éliminatoires au détriment du Cameroun représentera l'Afrique à cette Coupe du Monde en compagnie du Nigeria, du Sénégal, de l'Angola et de la Tunisie.
Et on termine avec le tour du Rwanda Yakuba, l'Érythréen Kudus, toujours en jaune, à trois jours de l'arrivée finale.
Lui, au classement général, Merawi Kudus garde le maillot jaune et possède toujours 17 secondes d'avance sur Rain Taramaye et 45 sur Matteo Badilati. Le peloton ira ce matin de Moussanse à Niamata. Hier, Binyam Ailou Girme a été le plus rapide lors de l'acte 5, couru entre Karondji et Moussanse. Il a avalé les 138,7 km en 3h40. 42 minutes 1 seconde devant le Rwandais Joseph Areruya et le Tchèque Daniel Turek. Moïse Mugusha est le porteur du maillot de la montagne. Juan Duploy, celui du sprint. Didier Munyaneza garde celui de meilleur jeune. Il est aussi le meilleur Rwandais du tour.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Eric Mandakiza. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Il n'y aura pas de second tour de la présidentielle au Sénégal. Paris donc réussi pour le président sortant Macky Sall, reconduit à la tête de l'État pour les 5 prochaines années. La Commission nationale de recensement des votes le crédite provisoirement de plus de 58%. Cette victoire a été relativement bien accueillie par la population, malgré quelques manifestations sporadiques à l'université de Dakar et des échauffourées dans la région de Thiès. De Dakar, les précisions de Seydina Abagay.
Le président sortant Macky Sall rempile avec 58,27% des suffrages, avec un taux de participation très élevé de plus de 66%. Des résultats publiés dans un climat sociopolitique apaisé, d'après Jean-Philippe, qui salue la maturité du peuple sénégalais.
Je salue la maturité déjà, la maturité notamment des hommes politiques et plutôt aussi encore la maturité des hommes religieux. Et ça c'est important déjà, il faut bien le souligner, parce que dans certains pays tu peux pas avoir une paix comme ça, c'est très difficile. Donc déjà au moins c'est un grand exemple déjà au niveau notamment africain, et ça répond aussi parce qu'il y a eu quand même des échos au niveau européen, il y a eu beaucoup d'échos pour les bienfaits, pour je peux dire tout ce qui s'est passé vraiment au Sénégal, et vraiment c'est à féliciter quoi.
D'après les observateurs nationaux et internationaux, le vote s'est bien déroulé dans l'ensemble, hormis quelques couacs avec notamment certains électeurs qui avaient du mal à retrouver leur bureau de vote. Pour Ibrahima Sall, la réélection du président Macky Sall est sans surprise.
Pas besoin de contester les résultats. Le président sortant s'est battu pour remplir. Il mérite sa victoire. Il a bien raison de vouloir finir tous les projets en cours. Ses adversaires doivent le féliciter. Tout le monde doit accepter le verdict des urnes. Les Sénégalais ont voté et ont plébiscité le président Macky Sall. Donc que tout le monde se plie à la volonté du peuple.
C'est aussi l'avis de Maurice Fall, pour qui l'heure est au travail. Et la vue continue.
Le Sénégal est une nation démocratique. On a expérimenté ce qu'on appelait par les parrainages. Bon, jusque-là, il n'y a pas eu de problème. Bon, la campagne a été bon enfant. Hein. Donc, personnellement, je ne vois vraiment pas l'intérêt d'entretenir des troupes post-électoraux. Il n'y a que le travail qui paye. Si nous voulons de l'argent dans ce pays, ben, c'est par le biais du travail.
Si ces citoyens acceptent le verdict des urnes et se félicitent du comportement mature de la population, ce n'est pas le cas de l'opposition qui a rejeté les résultats donnés par la Commission nationale de recensement des votes sans vouloir déposer de recours auprès du Conseil constitutionnel. Donc, Macky Sall est presque certain de rempiler pour un second mandat de 5 ans à partir du 3 avril prochain, c'est-à-dire la veille de la fête de l'indépendance. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Togo, c'est devenu normal pour les élèves du lycée d'aller au cours à 12h30 pour finir à 18h. Pour faire face aux effectifs pléthoriques dans les salles de classe, les responsables scolaires ont opté pour un système de double flux, la double vacation. Notre correspondante à Lomé, Kay Lawson, s'est rendue dans un lycée à la périphérie de Lomé. Kay Lawson vous promène dans l'univers de ses élèves qui ne vont au cours que les après-midi. Suivez.
Il est 11h08. C'est sous un soleil accablant à 28 degrés Celsius que Akoui, élève en classe de seconde au lycée de Vejranawe, quitte sa maison pour l'école. L'adolescente de 15 ans, qui habite à environ 2 km de son école, débute ses cours à 12h30.
Le premier jour de rentrée, le professeur était venu. Il nous a fait proclamer que pour cette année, les secondes et les quatrièmes viendront le soir, tandis que les autres classes et les classes des amis viendront le matin. C'est un peu difficile. Des fois, je rentre à 19h, des fois à 19h30. Et puis, apprendre le cours le soir, c'est plus possible, quoi.
Depuis quelques années, le lycée de Vejranawe a recours à cette pratique dénommée le double flux pour pouvoir accueillir tous les élèves qui le sollicitent. Pour un établissement de 21 classes avec un effectif d'environ 3000 élèves, le système de double flux s'est imposé, argumente Moukaïla Kwegouni, censeur du lycée de Vejranawe.
Nous avons un problème d'effectif. La demande est très forte, mais malheureusement, les infrastructures ne sont pas suffisantes pour les accueillir. Dans cette situation, nous créons un système de double flux, telle sorte que certains enfants viennent le matin et d'autres l'après-midi. Le premier groupe vient le matin, à 7h, les cours commencent et ils finissent à midi. Et le deuxième groupe commence à 12h30 pour finir à 17h30 ou 18h au plus tard.
Les élèves des classes de 4e et de seconde contraints de rester à la maison dans la matinée essaient au mieux de planifier leur emploi du temps personnel.
C'est devenu une habitude. Ça ne me gêne pas de venir le soir. Parce que le matin, ça donne du temps, tu peux apprendre.
Moi, c'est le matin que je revise les cours.
Tu es obligé de te réveiller, d'apprendre et de faire tes travaux avant d'y revenir. C'est pas assez facile d'étudier, mais tu es obligé de le faire.
Moi, ça m'avantage parce que le matin, quand je me réveille, je fais mes travaux domestiques et j'apprends. Alors que quand je venais le matin, ça prend trop de temps. On ne peut pas faire les révisions.
Avant, on venait à l'école le matin et le soir. Mais maintenant, on vient à l'école les après-midi. Et ça a changé beaucoup mon programme. J'arrive à faire bien mes travaux domestiques et apprendre bien le cours avant de venir à l'école les après-midi.
Débuter les cours à une heure de repos et de grande chaleur, doublé à un effectif pléthorique de plus de 100 élèves par classe, devient un peu éprouvant pour ces apprenants.
Dans notre classe, nous sommes à peu près 120. Les professeurs, ils nous expliquent, mais ce sont les élèves, ils parlent trop. Si tu as pris une place derrière, tu vois là, faut savoir que non. Cette année-là, si tu ne fais pas attention, tu es obligé de redoubler la classe. D'autres professeurs, ils ne reprennent pas des choses deux fois. Une fois et puis c'est terminé.
On est 111 dans la classe. On doit se battre pour avoir des moyennes. Parce que quand on est beaucoup comme ça, les professeurs n'arrivent pas à bien entretenir les élèves et on doit beaucoup travailler pour réussir à la fin de l'année.
La situation n'est pas appelée à perdurer. Déjà, de nouveaux bâtiments sortent de terre. Ils vont accueillir bientôt les élèves du flux des après-midi pour que ces derniers puissent avoir des heures normales de cours. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Congo-Brazzaville a noué un partenariat avec l'université Howard à Washington dans le domaine de la recherche. Cette collaboration est établie au moment où les universités congolaises connaissent des problèmes, des grèves, des arriérés de salaire et de retard pour la rentrée académique. Eddie Sango a reçu dans les studios de VOA Afrique le chef de la délégation congolaise, le ministre de l'enseignement supérieur du Congo-Brazzaville, Bruno Itoua.
Nous avons une conjoncture aujourd'hui économique et financière qui est connue, qui est difficile. Nous sommes un pays producteur de pétrole. Et comme tous les pays producteurs de pétrole, nous avons subi de plein fouet la réduction drastique des prix du pétrole. Ça a donc eu un impact sur notre capacité à honorer nos engagements sociaux, c'est-à-dire notamment les salaires et entre autres les salaires de l'université. Donc en effet, il y a quelques retards de paiement. Je voulais rappeler quand même que de décembre, autant que je me souvienne, 1998, jusqu'à ce que nous ayons cette crise en 2015, il n'y avait jamais eu de retard de salaire pour personne au Congo. Alors ça ne veut pas dire pour autant que ça excuse tout, non, mais c'est pour replacer les choses dans leur contexte. Et en réalité, quand on dit 6 mois de salaire, on donne le sentiment que ça fait 6 mois qu'on n'a pas payé. C'est le cumul des arriérés. C'est-à-dire qu'il y a un mois où on n'a pas payé, le mois d'après on a payé, puis quelques temps après il y a encore un mois qu'on n'a pas payé. Ces 6 mois, les salaires ont été réduits aujourd'hui à 4 mois de salaire. Mais depuis le mois de juin 2018, tous les mois, l'université est payée. Et le plus lourd arriéré, c'était sur l'année académique précédente, ça a été soldé totalement. Donc je crois que tout ça a créé les conditions pour que la reprise ait lieu. Et actuellement, nous travaillons pour résorber ces arriérés qui restent de 4 mois.
Justement, la rentrée académique a eu lieu, mais 3 mois après, qu'est-ce que vous comptez faire pour que ces retards ne puissent pas aboutir à, par exemple, à une année blanche ou pour que vous puissiez absorber ces retards?
J'ai l'assurance de la part de tous les acteurs, le rectorat, les enseignants eux-mêmes, que tout se passera bien et que nous aurons une année académique normale.
Est-ce que vous avez une politique de pouvoir mener à l'excellence cette université? Qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là?
Une université, elle a plusieurs missions. Elle a la mission de formation d'enseignement, celle qu'on connaît en général. Là, la mission de recherche et d'innovation, on le sait moins, et là, la mission de service à la communauté. Ces 3 missions peuvent générer des ressources autres que celles des étudiants. Quand on fait de la formation à l'enseignement pointu, qui s'adresse à des travailleurs, à des cadres, à des entreprises, à des partenaires qui ont des ressources, oui, on peut leur demander de payer le juste prix de l'enseignement. On ne peut pas imaginer qu'une année académique pour un étudiant coûte 12 500 francs CFA. C'est clair, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Et donc, à eux, on peut leur demander. La recherche et l'innovation peuvent produire des brevets, peuvent produire des concepts, peuvent produire des résultats que l'on peut transformer en ressources, qu'on peut monétiser. Les services à la communauté, la même chose. Donc, nous travaillons à ça aujourd'hui pour que le modèle de l'université congolaise, comme le modèle de certaines universités africaines qui sont en train d'évoluer, lui permette de disposer de ressources suffisantes pour se moderniser et pour garantir l'accès à l'excellence. Ça ne veut pas dire que l'État va s'arrêter de financer, non. Mais ça viendra compléter ce que fait l'État. Et ça viendra amplifier ce que fait l'État. Mais vous savez, les mesures dont je parle, elles ne sont pas à long terme. Hein. J'espère qu'elles donneront des effets rapidement. Quand on parle de services à la communauté, on parle des études, on parle de calculs, on parle de sondages, on parle de modèles, on parle de choses simples.
Bruno Itoa, ministre de l'enseignement supérieur du Congo, Brazzaville.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Page culture de cette édition à marge du cinquantenaire du FESPACO, la Fédération des cinéastes africains FEPACI, a tenu son 10e congrès le 22 février. Le Malien Cheikh Oumar Sissoko, étalon d'or de Yenanga, a été réélu à la tête de la fédération par consensus. Cheikh Oumar Sissoko revient sur la mission de l'organisation et son combat pour encourager la réalisation et la promotion de films en Afrique.
Cheikh Oumar Sissoko, secrétaire général de la FEPACI, Fédération panafricaine des cinéastes, étalon de Yenanga, je suis à Ouaga pour notre congrès, mais aussi et surtout le cinquantenaire du FESPACO. Nous avons plus de 1000 films qui sont envoyés en sélection. Ce n'était absolument pas le cas au début, ni il y a 20 ans. C'est un festival qui a grandi à telle enseigne que Ouagadougou est considéré aujourd'hui unanimement comme capitale du cinéma africain. La FEPACI a su créer des festivals, elle a su créer la Cinémathèque africaine de Ouagadougou, elle a su former des cinéastes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle peine, mais elle est en train de développer un business plan de 200 milliards de francs CFA. Elle a créé un programme de recherche des archives de films, toute la mémoire collective de ce continent, sans laquelle on ne peut absolument pas construire notre avenir. La FEPACI est arrivée à faire créer une commission africaine pour le cinéma et l'audiovisuel. Donc il va y avoir une discussion au plus haut niveau des problèmes qui s'opposent à notre cinématographie, et puis ensuite donc des solutions. La FEPACI doit simplement réunir donc les conditions pour pouvoir créer un fonds panafricain pour le développement donc du cinéma. Et on a ça en projet. Mon pays, le Mali, avec le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui vient d'être nommé coordinateur des arts, de la culture et du patrimoine au niveau de l'Union africaine. Nous allons avoir donc un deuxième pays qui va s'y mettre. Beaucoup de films ont les talents ici, mais ça ne va pas loin. Le film n'est pas connu sur le continent africain, alors qu'il devrait être distribué sur le continent africain. Et c'est ça notre meilleur challenge avec les 700-800 millions d'habitants que nous avons. Nous avons cette chance aujourd'hui avec un continent de 40 à 60% de moins de 35 ans, donc qui ont une maîtrise extraordinaire avec une intelligence inouïe donc de Guinée-Bissau. Mais il leur faut apprendre donc la technique donc du cinéma. Il leur faut connaître le continent. Il leur faut connaître nos cultures, nos traditions, les mythes, les légendes. Ça, c'est un travail de professionnalisation de nos jeunes. Il y va de notre identité. Il y va du développement donc du continent. Il y va de la renaissance donc du continent.
Cheikh Oumar Sissoko, secrétaire général de la FEPACI, la Fédération des cinéastes africains.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la rougeole.
C'est une maladie virale courante chez les enfants de moins de 5 ans. Malgré l'existence d'un vaccin, les flambées de cette maladie font encore de nombreux morts en Afrique.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Gaëlle Moutoke, médecin en RDC. Il nous dira comment reconnaître et prévenir la maladie.
Nous écouterons le témoignage du coordinateur d'urgence de Médecins Sans Frontières France et d'un médecin traitant en RDC. Ils nous parleront de la vaccination contre la rougeole.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedi, dimanche et mercredi à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à Jean-Roger Bion et à toute l'équipe de la rédaction. Eric Manilakidza à Washington vous souhaite une excellente journée à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Chaque jour est une vie. Au revoir.